chemin de vie.
Amis auditeurs, nous espérons que vous avez bien pris le temps de vous reposer pendant ce week-end. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre rubrique Chemin de vie. Au micro, Jean.
Ainsi que Heidi. Et Daniel est à la technique. De quoi Jacques Yosti va-t-il nous parler aujourd'hui ?
Nous rencontrons souvent des personnes qui disent « je n'ai pas la foi ». Mais qu'est-ce que la foi ? Faut-il faire quelque chose pour avoir la foi ? Ou alors est-ce quelque chose qui nous tombe dessus, comme ça ?
Notre chroniqueur a creusé la question et nous livrera le résultat de ses réflexions dans quelques minutes. Le temps d'écouter le groupe The Cry dans ce titre « Il ne te quittera pas ».
Un psychotique vit dans un monde paranormal. Il voit les choses ou des personnes et entend des voix que lui seul perçoit. À l'époque de l'Union soviétique, la foi était considérée comme un trouble psychiatrique et les croyants étaient enfermés dans des asiles d'aliénés. Un système athée ne peut pas faire la différence entre un psychotique et un homme de foi parce que tous deux évoluent dans une dimension qui n'est pas matérielle et palpable. Je continue à lire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est posséder ce qu'on espère, c'est l'évidence vécue des réalités qu'on ne voit pas. Verset 1. Une personne qui a la foi manifeste par sa vie ce qu'elle croit et ce que son esprit et son intelligence considèrent comme vrai. Le mot traduit par « évidence vécue » est un terme légal qui était utilisé dans un tribunal afin d'établir la culpabilité d'un prévenu. Dans le compte-rendu que fait Platon du procès de Socrate, il emploie ce mot plus de 20 fois. Noé a démontré ce qu'était la foi quand il a accepté de se lancer dans le projet gargantuesque de fabriquer une immense plateforme flottante alors qu'il n'avait probablement pas la moindre idée par quel bout commencer. Mais il a cru qu'il y aurait un déluge. Il a cru que l'Éternel savait ce qu'il faisait et qu'il lui donnerait les informations nécessaires et tout ce dont il aurait besoin afin de mener à bien la construction de l'arche. Sa foi reposait sur la parole que Dieu lui avait dite et non sur son expérience de la vie, car jusqu'au déluge, il n'avait jamais plu sur terre. Noé personnifie la persévérance de la foi, car la construction de l'arche a quand même pris 120 ans, et il a mis à profit ses nombreuses années pour avertir ses concitoyens de la venue du jugement. On ne peut croire Dieu et regarder au-delà du monde matériel qu'avec les yeux de la foi. Or, comme les athées ne se fient qu'en leur sens et que leur devise est « je ne crois que ce que je vois », ils ne peuvent évidemment pas concevoir les réalités spirituelles. Pourtant, la capacité de croire existe en chacun de nous. En effet, tout le monde a de la foi, sinon il ne pourrait pas fonctionner dans ce monde. D'ailleurs, ceux qui sont incapables de faire confiance aux autres, qui font un complexe de persécution ou qui sont parano, finissent mal. Jadis, on les enfermait dans un asile psychiatrique avec une camisole de force et aujourd'hui, on les pompe de pilules multicolores pour qu'ils nous laissent tranquilles. Même les Français ont la foi. En effet, ils boivent l'eau du robinet sans réfléchir parce qu'ils font confiance au service des eaux qui gère ce bien. Et quand on reçoit un relevé de compte bancaire, on a devant les yeux des listes de signes cabalistiques auxquels on attribue une valeur par la foi et dont on se sert pour effacer des créances ou acquérir tout plein de choses dont on a plus ou moins besoin. Avoir la foi, c'est être convaincu qu'on possède quelque chose de concret qui n'est cependant pas confirmé par les sens. C'est par la foi que j'ai reçu le pardon des péchés et un héritage dans les cieux. Pourtant, je ne possède aucun titre de propriété de ma maison céleste ou de document légal qui prouverait que j'ai été déclaré non coupable et juste par Dieu. Mais j'y crois. Je continue le texte. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Verset 2. Depuis toujours, Dieu s'intéresse de près aux êtres humains qui ont foi en lui, même si par ailleurs leur comportement laisse parfois à désirer. Abraham, par exemple, a commis un certain nombre d'impairs, mais c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel sous bien des aspects. Cependant, le livre de la Genèse ne relève que sa foi en Dieu. Il est écrit qu'Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Dieu se montre favorable envers ceux qui croient en lui et qui le prennent au mot. La foi n'est pas un des moyens, mais le seul de plaire à Dieu. Plus loin, l'auteur dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quoi que nous fassions pour Dieu ou en son nom, il est indispensable d'avoir foi en lui, de l'invoquer et de s'attendre à ce qu'il intervienne et nous bénisse. Autrement, nos efforts sont vains et futiles. » Depuis la venue du rationalisme, l'homme a éliminé Dieu et désormais nous baignons dans le relativisme le plus complet qui mène nulle part sauf au désespoir. Bien des gens pensent que leur existence n'a pas de sens qu'elle est absurde, ce qui fait qu'ils placent leur raison d'être un peu n'importe où, dans un travail, une passion, la drogue ou en s'adonnant à des croyances et des pratiques irrationnelles. Pour beaucoup, le but de la vie est bassement matériel et consiste à jouir du temps présent. Et en effet, s'il n'y a pas de Dieu, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si on est sur terre par le plus grand des hasards, alors la vie se résume à faire son trou avec sa petite carrière professionnelle et à profiter au maximum de ce que ce monde peut offrir. Il faut s'éclater un max, car quand le rideau sera tombé, je m'en irai comme je suis venu, nu comme un ver. Et si je laisse derrière moi quelques traces de mon passage, le temps se chargera bien vite de les effacer. Ceux qui ne possèdent pas une foi personnelle en Dieu n'ont pas non plus de certitude, d'espérance ou de paix durable. Ils sont plus facilement ébranlés que les croyants par les circonstances adverses de la vie. Seul le Créateur peut satisfaire les besoins profonds de l'homme et donner un but à son existence. Depuis Adam, certains ont cru en l'Éternel et à sa parole. Alors pour eux, la vie a pris un sens parce que leur foi s'est traduite en une espérance qui allait au-delà de la mort. Croire en Dieu donne une raison de vivre et même de mourir. Je continue le texte. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 3. Les Hébreux non chrétiens auxquels l'auteur s'adresse avaient évidemment une certaine foi en l'Éternel qui faisait partie de leur identité juive. Ils croyaient que Dieu était le créateur de toutes choses, mais ils devaient aller plus loin dans leur démarche. Le mot pour « univers » désigne tout ce qui existe ainsi que le bon fonctionnement de l'univers, que ce soit la pollinisation d'une fleur ou la rotation des astres. Selon les Écritures, tout a été créé par la parole de Dieu à partir de rien. Mais seule la foi permet d'accepter cette façon de concevoir le monde. Pour les philosophes et scientifiques qui ne croient pas en Dieu, l'origine de l'univers et comment la matière s'est organisée toute seule constitue un très gros problème, une difficulté insurmontable même. Après des siècles d'investigations et de théories fumeuses, ils en sont toujours au même point, sur la case départ. Le philosophe et mathématicien anglais Bertrand Russell a vécu 98 ans et reçu le prix Nobel de littérature. Il a passé toute sa vie adulte à combattre le christianisme qu'il considérait comme le plus grand fléau de l'humanité parce qu'il disait que le Dieu auquel il ne croyait pas était un tyran qui réprime la liberté de l'individu. Sa thèse était que l'homme pouvait conquérir le monde par son intelligence. Pourtant, à la fin de sa longue existence, il a reconnu que toutes ses recherches l'avaient mené nulle part, que sa vie était un fiasco et qu'il n'avait pas davantage de réponses qu'au début de sa carrière. Comme les philosophes humanistes n'ont aucune source de vérité sur laquelle s'appuyer, ils ne peuvent que tourner en rond, jouer avec les mots et produire des gribouillis verbaux. D'ailleurs, aucun ne prétend avoir trouvé la vérité ou un sens à la vie. L'apôtre Paul écrit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Les philosophes ne nous apportent aucune aide pour comprendre l'univers, mais les scientifiques non plus. Leur tentative de formuler un lointain passé et de reconstituer un processus à partir du présent est une quête futile parce que toutes leurs investigations s'appuient sur le faux postulat « il n'y a pas de Dieu ». Puis de là, ils se lancent dans des spéculations farfelues concernant les origines de l'univers, des astres, de notre planète ou de l'homme et leur attribuent un âge qui est impressionnant mais qui varie au fil des ans. Je me souviens quand je passais encore mon temps à user des fonds de culotte sur un banc d'école, à côté d'un radiateur, on nous avait enseigné que l'origine de l'univers remontait à 5 milliards d'années. En ce temps-là, ça faisait déjà beaucoup. Mais depuis, les enchères ont monté et maintenant on en est à 15 ou plus. Qui dit mieux ? Ça me fait penser à ce groupe de touristes qui participaient à une visite guidée d'un musée d'histoire naturelle. Ils arrivèrent devant un grand squelette d'animal préhistorique. Alors le guide leur a dit « C'est un dinosaure et il a 6 millions d'années et 6 ans. »« 6 ans ? D'où sortent ces 6 ans ?» demanda un des visiteurs. « Oh, c'est très simple. Quand j'ai commencé ce travail, il y a 6 ans, on m'a dit que ce tas d'os avait 6 millions d'années. Faites l'addition. » Les théories qui expliquent notre univers se suivent et ne se ressemblent pas, bien qu'en fin de compte, c'est du pareil au même. Il y a d'abord eu celle de Laplace et sa fameuse nébuleuse primitive, puis une autre et encore une autre jusqu'au Big Bang, qui fait maintenant une majorité de suffrages en compagnie de la théorie de l'évolution dopée par le transformisme qui est d'une puissance hallucinante et d'une intelligence inouïe. En effet, après bien des étapes que personne n'a pu observer ou reproduire, d'une soupe originelle d'amibe est sorti un être pensant, vous et surtout moi. Il me semble cependant qu'il faut davantage de foi pour croire un scénario pareil, qui est une insulte à mon intelligence, que d'accepter la présence d'un Dieu immensément puissant et sage qui est à la source de tout ce qui existe. La première phrase du livre de la Genèse est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Moïse n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Il a simplement énoncé un fait. Quand je considère la complexité du monde qui nous entoure, je ne comprends pas que quelqu'un de constitution normale puisse gober tout rond l'idée saugrenue comme quoi tout s'est fait tout seul. J'ai récemment lu que la marine américaine, qui évidemment s'intéresse beaucoup au sonar, aimerait bien fabriquer l'équivalent de ce que les dauphins utilisent. En effet, l'émetteur à ultrasons de ce mammifère est technologiquement tellement avancé, pourrait-on dire, qu'il peut facilement faire la distinction entre une pièce de 10 centimes et de 20 centimes derrière une barrière de boue ou de sable d'un mètre d'épaisseur. Mais on est encore loin de comprendre la sophistication d'un système aussi performant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit simplement que, par la foi, on sait que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. En d'autres mots, cette vérité ne peut pas se découvrir avec les moyens scientifiques traditionnels. Il est possible d'appréhender la réalité matérielle qui nous entoure au moyen de nos sens, mais pour ce qui est de comprendre le monde et le pourquoi de l'existence, la vie et la mort, ce n'est que par la foi en Dieu et en sa parole qu'on trouve les réponses. Comme le dit l'apôtre Paul, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Quand on y réfléchit, il n'y a vraiment que deux façons d'expliquer l'origine de l'univers, la spéculation et la révélation. Je continue le texte de l'Épître. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Verset 4. Pour illustrer le principe de la foi, l'auteur va utiliser une longue liste de personnages qui furent fidèles à Dieu. Il commence par mentionner trois hommes qui vécurent avant le déluge, Abel, Enoch et Noé. Ce dernier a non seulement survécu au jugement, mais il est aussi devenu le nouveau point de départ d'une nouvelle humanité. En effet, après le déluge, les êtres humains qui ont repeuplé la terre, ainsi que leurs descendants, comme vous et moi, sommes tous issus de Noé. Abel représente une foi pure sans aucune œuvre. Les lecteurs juifs ont justement besoin de se rendre compte que dès le début de l'histoire, la foi est le moyen et le seul par lequel l'homme peut accéder à Dieu. Adam et Ève ne pouvaient pas être des exemples de foi parce qu'ils avaient vécu en compagnie de Dieu qu'ils voyaient tous les jours face à face dans le jardin d'Éden. En fait, jusqu'à ce qu'ils soient chassés du paradis terrestre, ils marchaient par la vue et ensuite ils conserveront toujours le souvenir de la relation privilégiée qu'ils avaient entretenue avec le Créateur. Leurs enfants furent les premiers êtres humains qui avaient besoin d'avoir la foi, et Abel fut le premier à posséder la foi qui sauve l'homme déchu et perdu. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Adam s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme ». Ève, issue comme Adam des mains du Créateur, exprime son étonnement à mettre au monde un homme et reconnaît en Dieu la source ultime de la vie. Elle pensait que Caïn, son fils premier-né, serait la postérité promise qui vaincrait le serpent. En effet, l'Éternel avait dit au serpent « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Étant devenus pécheurs, ils n'avaient plus droit à sa présence. Cependant, dans sa grâce, le Créateur leur avait promis un sauveur. En effet, par la femme naîtrait un homme qui, d'une part, serait blessé par Satan, mais d'autre part, le détruirait, affranchissant ainsi l'humanité de la malédiction du péché. Le jugement de Dieu contenait donc aussi la promesse d'un Rédempteur. Seulement nos premiers parents ne se doutaient pas que le Messie ne viendrait qu'après des milliers d'années de lutte entre les fidèles à Dieu et les instruments de Satan. Dans les Écritures, la filiation humaine remonte toujours à l'homme. Or, Dieu a dit à Ève que ce serait sa descendance qui écraserait Satan. En d'autres mots, l'élément masculin, il est complètement disqualifié. Or, la seule personne qui est née sans l'intervention d'un homme est Jésus-Christ, puisque Marie, qui était vierge, l'a conçu du Saint-Esprit. Après Caïn, Ève donna naissance à un second fils. Le texte dit « Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. » Bien que ce ne soit pas mentionné, il est probable qu'une ou plusieurs filles soient nées entre les deux frères. Caïn et Abel étaient dotés de la même nature et des mêmes capacités et limitations que tout être humain qui a jamais existé. Ils étaient comme vous et moi et n'avaient rien de ces êtres primitifs nés de la fantaisie des évolutionnistes. D'après le livre de la Genèse, Dieu a créé nos premiers parents intelligents. Adam a nommé tous les animaux, ce qui nécessitait un vocabulaire et un esprit créatif. Leur fils connaissait l'élevage et l'agriculture. Les premiers hommes n'étaient pas semblables au Yéti, l'abominable homme des neiges, mais possédaient un langage et une culture développés. Le texte de la Genèse continue. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Fin de citation. Nous ne savons pas de quelle façon Dieu approuva le sacrifice d'Abel. Peut-être l'a-t-il consumé, car au moins 5 fois dans les Écritures, c'est de cette manière que Dieu manifeste son approbation. Caïn et Abel savaient évidemment ce que Dieu exigeait d'eux, ce qu'il a pensé de leur offrande respective et quel était leur statut devant lui. Les deux frères étaient très différents l'un de l'autre et pourtant ils furent élevés dans le même environnement et possédaient les mêmes gènes qui provenaient uniquement de leurs parents. Caïn ne pouvait donc pas blâmer un lointain aïeul pour excuser sa conduite. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Dieu leur avait révélé qu'il devait lui offrir le sang d'un animal égorgé. Abel a cru Dieu et obtempéré. Le texte de la Genèse précise même qu'il offrit les meilleurs morceaux des premiers-nés de son troupeau. Or, c'est Dieu lui-même qui fut le premier à tuer un animal afin de revêtir Adam et Ève de sa peau pour remplacer les feuilles de figuier dont ils s'étaient vêtus. Apparemment, Abel fut le premier homme à offrir un sacrifice. Il s'est approché de Dieu en immolant un agneau, une victime innocente qui préfigurait Jésus-Christ. Cain, par contre, en a fait à sa tête. Il s'est dit, comme je cultive des légumes, n'importe quelle salade fera l'affaire. Dieu acceptera bien le fruit de mon travail. Beaucoup adoptent cette même attitude désinvolte envers Dieu et croient pouvoir venir à lui grâce à leurs accomplissements. Depuis l'animal que Dieu a tué dans le jardin d'Éden, qui fut suivi par l'agneau qu'Abel a immolé, il est évident que le chemin qui mène à Dieu passe par un sacrifice. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que Abel a cru l'Éternel et offert un sacrifice par la foi, le texte de la Genèse dit qu'il a été déclaré juste par Dieu. Par la foi, il a fait ce que Dieu avait ordonné. La foi véritable engendre toujours l'obéissance et le désir de vivre d'une manière droite. Pourtant, ce ne sont pas mes qualités humaines ou mes vertus qui sont importantes pour Dieu, mais que j'ai confiance en lui. Dans l'économie divine, le juste vivra par la foi.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et que ta voix m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, agneau de Dieu, je
groupe Promesse nous a interprété ce titre « Tel que je suis ».
La pendule nous rappelle que notre chronique arrive bientôt à son terme pour aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour vous communiquer ces infos. Toutes nos rubriques sont disponibles sur notre site internet chemindevie.info avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info.
Sachez que pour recevoir gratuitement une copie de ce texte ou une Bible, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pendant les heures de bureau qui est le suivant. 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Espérant vous retrouver demain, nous vous disons au revoir.
À demain.